évidemment, on va aller tout de suite à Valérie Roberts parce que c'est vendredi. Bonjour Valérie.
Salut Bernard, comment ça va aujourd'hui?
Valérie, c'est sympathique finir le vendredi avec toi.
Ben, c'est un plaisir partagé.
Bon. Et là, aujourd'hui, tu vas... c'est très varié.
C'est très varié. C'est très varié.
Hein? On va parler de Disney, on va parler de Brad Pitt, on va parler de Paul Pichet.
Absolument.
Mais oui, entre autres choses. Alors, commençons par Disney.
Ouais. Ben là, cette semaine, je sais pas si tu as remarqué, mais la nouvelle plateforme de Disney est sortie, c'est-à-dire un peu comme Netflix, un peu comme Apple TV Plus, oui, qui a été lancée il y a 2 semaines.
On en a parlé.
Voilà, c'est en plein bon. Ça. Maintenant, c'est Disney Plus. Donc, tu t'abonnes à cette plateforme-là et tu as accès à une multitude d'émissions, une multitude de séries, de films. Mm-hmm. Et bien évidemment, ils ont profité de l'occasion pour mettre leur catalogue de films disponible presque à 100%. Pour vrai, c'est très impressionnant.
Tous les films de Disney, là,
pas mal
là.
Tous les films, je t'avouerais.
Il y en a beaucoup. Il y a des classiques là-dedans, notamment en bande dessinée, là.
Exact. Puis tu vois, dans ma maisonnée, par exemple, nous, on est des grands fans de Disney. Fait que nous, c'est vraiment le type d'application qui nous rendrait très heureux. Mm-hmm. Moi, par exemple, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle qui est sortie hier. Là, aujourd'hui, on fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé cette semaine. Mm-hmm. Nouvelle qui est sortie hier. Désormais, le catalogue de films qui est proposé sur Disney+, donc les classiques, je pense à Dumbo, je pense à Peter Pan, aux Aristochats, ben maintenant, il y a une petite espèce d'encadré qu'on propose avant que le film commence pour aviser que le programme est présenté tel qu'il a été originellement créé et il peut contenir des représentations culturelles datées. OK?
Et donc, okay, le débat sur l'appropriation culturelle.
Ce qu'ils veulent dire, c'est que dans les films de Disney, dans les classiques dont j'ai mentionné, il y a des stéréotypes qui soient ethniques, religieux, culturels. À cette époque-là, on mettait pas nécessairement ça en question, des stéréotypes de genre aussi. Mais désormais, évidemment, on le sait, sujet très, très, très délicat. Et donc, le regard qu'on porte sur ces films-là, c'est différent, tu sais. Je pense entre autres à La Belle et le Clochard qui est sorti en 1955. Ça fait un petit bout, on se mentira pas. Mm-hmm. On dit que dans ce film-là, il y a certaines scènes qui sont considérées comme racistes, considérées comme sexistes.
Pourquoi?
Ben entre autres, il y a un moment où il y a des chats, des siamois qui seraient donc asiatiques d'une certaine manière. Je mets ça entre guillemets. Et donc on dit que ça véhicule une représentation stéréotypée, une représentation raciste des asiatiques.
Ben,
mais c'est des chats. On revient à ça, là.
Mais c'est
même
des chats siamois.
Ce sont des chats siamois.
OK,
voilà.
Toi, là, tu ne nous parles pas de ça parce que tu trouves ça brillant. Tu nous parles de ça parce que tu trouves que c'est un petit peu charrié, là.
Ben, c'est que je pense que Disney se protège en faisant cet avertissement-là. Ils ne veulent pas, évidemment, que quelqu'un dise, ben voyons, dans le livre de la jungle, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec l'enfant par rapport au fait qu'il pourrait être d'une autre ethnicité ou peu importe, tu sais. Mais on est quand même assez intelligent, l'être humain. Là. Je veux dire, on s'est rendu jusqu'ici dans la société.
T'es-tu en train de prendre position, Valérie Roberts, avec beaucoup de courage?
Vas-y.
Contre la rectitude politique ambiante?
Ben, je trouve que des fois, on exagère. Puis avec l'exagération, ça va pas nous aider. Ça nous nuit.
C'est quoi l'expression? Ce qui est exagéré devient insignifiant.
Ben, c'est exactement ça. Puis je trouve que dans ce cas-ci, avec l'avertissement que Disney Plus a décidé de mettre donc devant ses films, je trouve qu'on exagère vraiment. Puis moi, à la place de me dire « Oh wow, quel bon coup de Disney », je me dis « Ben voyons, ils exagèrent, ça n'a pas de bon sens. » Pourquoi, tu sais, Aladdin par exemple. Aladdin, c'est sorti en 1992. Il n'y a pas d'avertissement à Aladdin. Pourquoi? Parce que ça dépeint pas les personnes du Moyen-Orient de manière raciste.
Bon, puis?
Ben voilà, mais Aladdin, quand tu y penses, ça pourrait être hyper stéréotypé par rapport au Moyen-Orient. Moi, je suis allée souvent au Moyen-Orient. Comment ça que j'ai pas vu Aladdin, là, quand je me promenais dans les villes?
Mais c'est au Canada, Aladdin. T'as pas vu le premier ministre?
Bon, on revient pas là-dessus, ça me rend trop mal à l'aise, Bernard. Je trouve qu'on pousse un petit peu trop loin peut-être dans cette idée-là.
Je suis content. Je suis content que tu t'exprimes là-dessus parce que effectivement, à un moment donné, je trouve qu'on on exagère puis on devient tellement peureux, puis on a tellement peur de la critique là, tu sais qu'on est comme tout tu sais, le rouler en petite boule dans un coin, là, d'un coup qu'un chroniqueur là, écrirait une et chronique voilà. là, pour dire là, qu'on est là, contre la diversité, puis qu'on charrie des stéréotypes. À un moment donné, là, voulez-vous être... bien le sacrifice?
Il faut être intelligent aussi. T'sais, le film là, La Belle et le clochard, qui est sorti en 1955, si on n'est pas capable de comprendre que la société n'était pas pareille, mais mon Dieu, je veux dire, retourne chez vous et n'en sors plus jamais. Là. Mais de nos jours, si ça, un film avec des problématiques d'appropriation culturelle, de stéréotypes religieux sortait en 2019, je comprends qu'on peut lever la main et dire il y a peut-être un problème, mais pas pour ça. Bref, très bien. Disney Plus, vous allez revoir ça.
Le message est passé. Bon, parlons de Brad Pitt. Là, c'est un petit peu plus léger.
Oui, vraiment.
Mais pourquoi Brad Pitt mange-t-il tout le temps dans le film Ocean Eleven, c'est ça?
Oui, mais je ne sais pas si tu avais remarqué, mais pour vrai, Brad Pitt, il mange souvent dans ses films. Vraiment très souvent.
J'avais pas remarqué.
Non.
Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai.
Pense-y. Pense à Fight Club. Il mange continuellement dans ce film-là. Mm-hmm. Pense à Ocean's Eleven, qui est le film pour lequel l'article est sorti, un des chefs-d'œuvre de Steven Soderbergh. Il mange continuellement. Puis en entrevue, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, à savoir pourquoi est-ce qu'il mange autant des nachos, des hamburgers, du popcorn, un cornet de crème glacée. Eh bien, c'est que Brad Pitt a dévoilé que... lui, il voyait ce personnage-là comme quelqu'un qui était continuellement dans le mouvement. Il disait, pour moi, ce personnage-là, il est comme actif, mais hyper actif aussi, d'une certaine manière. Puis c'est comme s'il n'y aurait même pas le temps de s'asseoir et de prendre le temps de consommer un vrai repas. Fait que pour pouvoir définir son personnage, ben il a fait en sorte que lui, il grignotait toujours quelque chose.
Je me pose la question quand je vois ça en passant. Toi, tu es dans ce milieu-là, là.
Oui.
Mettons que tu es rendu à la 27e take, comme on dit, là. C'est la 27e prise.
Ouais.
Là, ils t'ont-tu servi comme 7 hamburgers? Parce que, je veux dire, d'une prise à l'autre, tu prends une petite bouchée, puis à un moment donné, il est froid. Fait que, comment ça marche? Ils doivent avoir des brûlures d'estomac à un moment donné. Écoute, puis par ailleurs, comment ça se fait qu'une fois qu'il passe son temps à bouffer, pourquoi il n'engraisse pas, lui, le sacré Brad Pitt?
Ben là, Brad Pitt, c'est parce qu'il y a des entraîneurs puis des chefs qui s'occupent de lui à longueur de semaine. Fait qu'il n'est vraiment pas à plaindre. C'est pour ça qu'il ne prend pas une livre. Par contre, si je réponds à ta question par rapport aux acteurs qui mangent dans les films, il faut savoir que quand il a fait justement Ocean's Eleven, il y a une scène à un moment donné où il mange une coupe de crevettes et puis là, il dit discute évidemment. Eh bien, dans le film, Steven Soderbergh, le réalisateur, a fait des multiples prises qui a fait en sorte qu'il a mangé plus d'une quarantaine de crevettes juste pour faire cette scène-là.
OK, puis... ma question donc n'était pas complètement insignifiante.
Non. Moi, tu vois, je travaille avec Pierre-Luc Funk et Pierre-Luc, acteur québécois, m'a dit qu'à un moment donné, il fallait qu'il tourne une série où il devait manger du spaghetti. Puis à la fin, il était juste sur le bord de vomir du spaghetti tellement il en mangeait. Parce que, évidemment, comme tu l'as dit, il faut continuellement. Tu sais, si c'est un hamburger puis tu as pris une boucher, la scène est raccord.
Ben oui.
Ben, ça veut dire que est-ce que c'est un nouveau burger ou est-ce que tu es rendu à une deuxième bouchée pour t'amener un autre hamburger avec juste une bouchée de prise?
Mais c'est une vraie question.
Tu peux pas
sur un plan avoir juste une bouchée de prise dans ton hamburger.
Absolument.
Tu coupes à la personne à qui il est en train de parler, mettons sa blonde, tu reviens au gars, puis il y a la moitié du hamburger de bouffer. Ça marche pas, là.
Exactement. Mais tu vois, c'est une super bonne question, effectivement. Puis c'est vrai que Brad Pitt, dans Ocean's Eleven, entre autres, a mangé. Continuellement, justement dans cette idée-là ça définissait son personnage, il était comme tout le temps à la presse, puis il grignotait tout le temps.
Cette chronique, Valérie Roberts, ne cesse de repousser les limites de la connaissance.
Je vais te le dire, là, tous les gens qui nous écoutent ce soir vont se coucher et se dire, mais mon Dieu, je suis un petit peu plus intelligent.
Une chance que j'ai pas raté Valérie aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont se dire.
Exactement.
Bon, parlons maintenant de Paul Piché.
Ouais, Paul Piché qui conclut actuellement sa tournée qui s'appelle 40 printemps.
Oui.
Il a fait donc 42 représentations de ce spectacle-là. Il y a plus de 75 000 spectateurs qui sont allés le voir et aujourd'hui, il lance donc un album de duo avec ses plus grands succès pour célébrer la fin de cette tournée, mais aussi donc son 40e anniversaire de carrière. Hein. 40 printemps, c'est pour le 40e anniversaire de carrière. Donc une tournée qui a amorcé quand même il y a 2 ans où il dit en entrevue que ça a été pour lui une expérience incroyable. Chaque ville où il arrêtait, il demandait à un chansonnier de l'accompagner, à deux ou trois artistes de l'accompagner. Donc, il y avait toujours quelqu'un avec lui sur la scène pour chanter ses plus grands succès. Puis c'est pour ça qu'on a droit, sur le disque qui sort aujourd'hui, à des reprises, par exemple, de « Heureux d'un printemps » avec Patrice Michaud, à « Ne fais pas ça » avec Florence K. Il y a aussi la gig à Michoano avec Vincent Valliant. Si je ne me trompe pas, on a un petit extrait.
Wow. Saint Scolastique ou Parc Forillon fallait partir de bon matin
pour les touristes,
ou leurs avions.
On est toujours
dans le chemin.
Ah, je peux pas m'empêcher.
Ben, je te comprends, c'est tellement bon.
Ah, écoute, j'ai fait un... Je peux que je te fasse une petite confidence.
Vas-y.
Quand j'étais correspondant parlementaire à Ottawa, j'avais fait un reportage sur les expropriés de Hull, okay, oui. Du vieux Hull. C'est un quartier ouvrier. Ils ont exproprié le monde, puis ils ont construit des édifices du fédéral. Et c'est triste, là. T'sais? Puis ça me fait penser aux expropriés de Saint-Scolastique, puis aux expropriés en Gaspésie. Tu sais, quand on les a expropriés pour faire le grand parc. Là.
Tout à fait.
Bon. Et j'ai appelé Paul Piché. J'ai dit, Paul, peux-tu utiliser votre chanson? Ben, je le tutoie, mais je le vous voyais gros comme le bras. Et il a accepté, puis il m'a rien demandé. Il dit, oui, utilise-la, ma chanson. Puis donc, le reportage sur les expropriés de Hull commençait avec cette chanson-là. Puis c'est tellement une belle chanson.
Puis cette chanson-là, oui, tu sais, ce qu'on a entendu, évidemment, c'est la version originale. C'est pas la version qui l'a repris avec Vincent Vallière. Mais... Tu parles de cette chanson-là, mais moi, je trouve que la particularité du répertoire de Paul Piché, puis des fois, il y a des gens qui se moquent de Paul Piché, je trouve, là, tu sais, comme s'il fait juste sortir pour fêter la fête nationale, puis il retourne chez eux par
c'est
la
un,
suite. Mais...
C'est un peu moqueur, là. La chemise à carreaux, la grosse barbe. C'est devenu un petit peu in de se moquer de Piché, puis je trouve que, franchement, réécoutez donc ces chansons.
Ben,
puis...
C'est en plein ça. Hein? C'est exactement ça que je m'apprêtais à dire. Réécouter l'œuvre de Paul Piché, c'est réécouter l'œuvre d'une époque, c'est écouter le reflet d'une société, c'est écouter quelqu'un qui s'est engagé, quelqu'un qui nous a représenté depuis les 40 dernières années. Puis je trouve que ce disque-là, c'est une belle manière de pouvoir le redécouvrir. Donc, 40 printemps, où il a choisi 13 musiciens. Puis il disait en entrevue, j'aurais pu choisir des musiciens de mon âge, des amis, des gens avec qui j'ai déjà collaboré. Mmh. Au contraire, je suis pas allée vers mes vieux chums. Je suis allée choisir des musiciens, des musiciennes qui sont plus jeunes, pour justement faire un genre de d'éloge à la jeunesse musicale, pour dire, écoutez, là, moi, je suis ici depuis toujours, depuis tellement longtemps, mais je veux partager mon répertoire, je veux partager mon inspiration, ma créativité avec plein d'autres artistes. Fait qu'il y en a plein sur le disque. Je pense à Ingrid Saint-Pierre, je pense à Deux Frères, je pense à Yann Perrault, Damien Robitaille, Émile Bilodeau. Ça vaut vraiment la peine de vous procurer le disque qui sort aujourd'hui. Et en plus, il a annoncé donc un grand spectacle à la Place Belle qui va avoir lieu le 1er mai prochain, donc 1er mai 2020. Il va être accompagné de presque tous les artistes avec qui il chante en duo sur le disque. Ça risque d'être exceptionnel. Les billets sont en vente depuis une heure. Donc, c'est sur le paulpiché.net pour avoir tous les détails. Mais cessons de se moquer de Paul Piché. Puis, tabarouette, célébrons sa carrière. Mon Dieu, quelle grande carrière.
T'as absolument raison. C'est un monument.
Vraiment.
Il nous a laissé des super chansons. Moi, je suis allé le voir à Hawkesbury au début des années 80. J'étais étudiant à l'université d'Ottawa. Je m'en rappelle encore, c'était le vieux Piché avec Rick Hayworth à la guitare. T'es un méchant guitariste, Rick Hayworth. Ah, c'était magnifique. C'est des très, très beaux moments.
Et moi, j'ai écouté ça toute ma jeunesse. Ma mère écoutait tellement Paul Piché. Puis je me rappelle, ma sœur puis moi, on écoutait ça, puis on chantait, puis l'escalier, je la connais par cœur. Puis bref, moi, je pense que je vais me procurer ce disque-là aujourd'hui pour pouvoir aller jouer dans ma nostalgie.
Bravo. Très bien. On finit ça comme ça, Valérie Roberts.
Ben voilà.
On s'assume, nous autres.
On s'assume pleinement.
Absolument. OK.
Ah, c'est bon.
Ah, sacré. C'est bon. Celle-là est avec Patrice Michaud.
Et voilà.
Ah, c'est bon, Valérie. Merci de nous avoir ramené le bon vieux Piché dans les oreilles.
Tout le plaisir est pour moi, puis bon week-end, bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Certainement.
On s'arrête. Au retour, on va parler, si je ne m'abuse, on parle un petit peu de sucre. Au retour, c'est quelque chose, le sucre, dans un instant.